Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on entame une nouvelle exploration en profondeur et on va plonger dans un dossier vraiment fascinant.
Oui, et qui risque de bousculer pas mal d'idées reçues chez ceux qui connaissent un peu le texte.
Exactement. En fait, on se base sur la 12e session des enseignements du Dr John Walton. C'est sur le livre de Job. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est assez radical. C'est de renverser totalement la façon dont on perçoit les personnages de la femme et des amis de Job.
C'est ça. Parce que d'habitude, quand on lit ce genre de récit, on a ce réflexe naturel d'y chercher, tu vois, un réalisme historique.
Ouais, on veut analyser leur psychologie.
Voilà, comme si on lisait le compte-rendu journalistique d'une tragédie familiale avec des vrais voisins venus prendre un café pour consoler un ami malade. Sauf que l'analyse de Walton nous oblige à abandonner immédiatement cette approche.
Complètement. Commençons à décortiquer tout ça, parce que c'est incroyable de voir à quel point un texte aussi ancien utilise des techniques narratives super complexes pour manipuler nos attentes.
Et c'est vraiment le prérequis indispensable. Tant qu'on s'obstine à chercher un reportage factuel, on se heurte à un mur. L'auteur antique n'a pas réuni ses figures pour nous émouvoir, il s'en sert comme des véritables outils conceptuels.
Des constructions littéraires, en somme.
Absolument. Des constructions sophistiquées, qui jouent un rôle théologique et rhétorique, d'une précision redoutable.
Et ce qui frappe tout de suite, quand on regarde l'architecture du texte, c'est le traitement de ses fameux amis. Déjà, l'auteur précise bien qu'ils sont trois. Pas deux, pas quatre.
Le chiffre n'a rien d'aléatoire, en effet.
Non, c'est clair. Et avant même de comprendre l'impact qu'ils ont sur l'intrigue, il faut capter pourquoi ce chiffre 3 et qui ils sont individuellement. Selon Walton, ils remplissent des rôles épistémologiques super distincts.
Oui, il faut vraiment les voir comme la représentation exhaustive de toutes les manières dont l'être humain prétend acquérir la connaissance à l'époque.
Ok, donc si on prend le premier, Eliphaz.
Eliphaz, lui, il incarne l'expérience personnelle. Son approche est purement empirique. Quand il parle, son discours est saturé de formules du genre « j'ai observé ceci, j'ai une vision, voici ce que j'ai vu de mes propres yeux ».
Donc il tire des lois universelles juste de sa petite vie.
Exactement. Il fait de ses observations isolées une vérité absolue.
Ensuite, on a Bildad. Et lui, c'est un registre complètement différent.
Tout à fait. Bildad ne se fie pas du tout à son expérience immédiate. Il s'appuie sur la tradition. C'est la sagesse des âges, tu vois. Le philosophe qui invoque le poids de l'histoire.
Donc pour lui, la génération actuelle est ignorante. Il faut écouter les ancêtres.
C'est salorique, oui. Si une idée a survécu à l'épreuve du temps, c'est que c'est une vérité.
Et enfin, pour compléter le trio, on a Zophar. En lisant les notes, moi, il m'est apparu comme le systématicien pur et dur.
Ah oui, Zophar, c'est le dogmatique.
Pour lui, tout doit être binaire. Noir, blanc, cause, effet. Le monde est une grille rigide et le mystère, ça l'insupporte.
La nuance n'existe pas chez lui. L'univers est une équation mathématique. Tu appliques la formule, le résultat doit être prévisible.
C'est dingue parce que, en préparant cette émission, j'ai pensé à une analogie moderne qui m'a sauté aux yeux. C'est exactement comme assister à une réunion de crise dans une grosse boîte aujourd'hui.
Ah oui, comment ça?
Face à un problème, t'as toujours ces trois profils. Eliphaz, c'est le collègue qui jure que par ses anecdotes, genre « la dernière fois que j'ai géré un dossier comme ça, j'ai fait ça, donc c'est la seule méthode ».
C'est le gars du terrain.
Voilà. Bildad, c'est celui qui va te citer les fondateurs de l'entreprise ou un gros bouquin de management. Historiquement, on a toujours fait comme ça.
Très juste. Et Tsofar, du coup?
Tsofar, c'est l'analyste qui débarque avec son immense tableau Excel. Il est persuadé que si on rentre les bonnes données, la solution va sortir automatiquement. Il veut forcer une réalité humaine super complexe dans une feuille de calcul toute rigide. C'est ça? Dans l'esprit d'un lecteur du Proche-Orient ancien, ce sont pas juste des potes qui passent dire bonjour, c'est la fine fleur, les spécialistes mondiaux numéro 1, 2 et 3.
Le sommet absolu de l'intellect. Et c'est là que le texte devient hyper subversif, puisque ce sont les plus grands sages en s'attend à ce qu'ils règlent le problème de Job en 2 minutes.
Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit.
Leur discours dure des dizaines de chapitres et ils s'enfoncent complètement. Le récit détruit tous leurs arguments, point par point, et au final, ils passent pour des fous. Mais, où cela devient vraiment intéressant, c'est de se demander...
Quel est le but de l'auteur? Oui. Pourquoi prendre ce risque narratif? Pourquoi convoquer l'élite intellectuelle juste pour la ridiculiser? C'est pas un peu dangereux pour un auteur antique de s'aliéner les lecteurs instruits?
Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est une volonté délibérée de provoquer un choc culturel. Dans cette culture, l'expérience, la tradition et la logique sont vénérées.
C'est les piliers de la société.
Absolument. En montrant que ces trois piliers s'effondrent face au mystère de la souffrance de Job, l'auteur prouve que la meilleure sagesse humaine est totalement inadéquate face à l'action divine.
C'est une grosse claque à l'arrogance intellectuelle, en fait.
Totalement. Même avec les meilleurs outils, l'humain ne peut pas cartographier Dieu.
Du coup, la question naturelle, c'est de savoir quelle est la faille dans leur système. Pourquoi leur tableau Excel plante à ce point?
Selon Walton, c'est à cause de leur dépendance absolue au principe de rétribution.
Le fameux karma institutionnalisé. On obtient ce qu'on mérite.
Exactement. Si tu agis bien, tu prospères. Si tu agis mal, tu souffres. Le problème, c'est qu'ils confondent ce principe général avec une loi universelle qui obligerait Dieu lui-même à s'y plier.
Donc, comme Job souffre atrocement, leur logique binaire les oblige à déduire qu'il a commis un péché énorme.
Même s'ils n'ont aucune preuve empirique. Leur système l'exige, sinon c'est toute leur vision du monde qui s'effondre.
C'est de la dissonance cognitive à l'état pur. Ils préfèrent l'accuser sans preuve plutôt que de remettre en question leur petit système. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'intrigue. Ils le pressent de confesser pour une raison bien précise.
Pour récupérer ses biens. C'est toujours une question de bénéfice matériel pour eux.
Voilà. Ses troupeaux, sa santé. Et l'ironie, c'est que ça rejoint parfaitement la scène du début de livre.
La cour céleste, oui.
C'est fou quand on y pense. Le challenger, au début, affirme que Job sert Dieu uniquement par intérêt transactionnel. Genre, enlève-lui ses richesses, il te maudira.
Cela soulève une question importante sur le rôle réel des amis. Parce que quand ils arrivent, Job est déjà au fond du trou. Le challenger n'a même plus besoin de parler.
Les amis font le boulot à sa place.
Exactement. En poussant Job à se repentir dans l'unique but de récupérer sa prospérité, ils agissent comme les agents philosophiques du challenger, sans s'en rendre compte.
Si je reprends mon analogie de l'entreprise, c'est comme si des ressources humaines venaient te voir à l'hôpital. Ils ont l'air d'être là pour t'aider, comme des amis.
Mais en réalité, ils protègent la boîte.
C'est ça. Ils pensent être les avocats de la défense pour Job. Mais ils utilisent tous les arguments de l'accusation.
Et le piège est mortel. Si Job les écoute, s'il avoue un faux crime juste pour faire marcher le principe de rétribution et ravoir ses moutons, le challenger gagne.
Ça prouverait que sa foi était juste un contrat commercial.
C'est un test psychologique d'une intensité inouïe.
Mais la pression vient pas que d'eux. Il y a un autre personnage qui propose une sortie encore plus radicale. La femme de Job.
Ah, un personnage tellement mal compris.
Grave. D'habitude, on la juge super vite. On se dit qu'elle épouse cruelle. Mais Walton dit qu'elle n'est pas décrite comme une vraie compagnonne en deuil.
C'est une autre fonction rhétorique. Elle n'apparaît que pour une seule réplique.
Maudit Dieu et meurt. C'est pas un cri de chagrin, c'est un positionnement philosophique. Elle propose le raccourci ultime. D'ailleurs, est-ce que tu peux détailler un peu les 5 fonctions rhétoriques spécifiques que Walton lui attribue? Parce qu'un lecteur rapide passerait complètement à côté.
Bien sûr. Premièrement, son intervention évite une victoire trop rapide du challenger. Deuxièmement, ça offre à Job l'occasion d'articuler sa fidélité à voix haute face à la maladie physique.
La fameuse phrase « Accepterons-nous le bien et pas le malheur ?»
Exactement. Troisièmement, elle sert de prélude à l'arrivée des amis. Quatrièmement, elle propose une solution opposée à la leur. Et cinquièmement, et c'est le plus important, elle partage en fait leur hypothèse fondamentale.
Attends, elle partage l'hypothèse des amis, alors que les amis disent « adapte-toi et survie », et elle dit « abandonne et meurs ».
Leurs conclusions sont opposées, oui, mais leur prémisse est identique. Pour elle, comme pour eux, les bénéfices matériels sont tout ce qui compte.
Ah, je vois. Les amis disent « le contrat matériel est suspendu, trouve un moyen de le renégocier ». Et elle, elle dit « le contrat est rompu, déchire-le ».
C'est exactement ça. Elle travaille en tandem avec l'élite intellectuelle. Aucun d'eux ne peut concevoir une foi en dehors d'un cadre strictement commercial.
Le niveau de cohérence de ce texte est juste sidérant. Job est pris en étau entre le nihilisme de sa femme et le dogmatisme étouffant de ses amis.
Et il doit trouver une troisième voie au milieu de tout ça?
Du coup, ça rend certaines lectures modernes du texte carrément ridicules, non?
Ah oui, il faut absolument déconstruire ce mythe du mauvais conseiller. Beaucoup lisent ces chapitres pour pointer le manque de tact des amis de Job, comme si c'était un manuel sur comment ne pas consoler quelqu'un.
C'est tellement fréquent. Hein. On lit souvent « Regardez Bildad, quel manque d'empathie !»
C'est une erreur de catégorie monumentale. Ils ne sont ni des modèles, ni des antimodèles. Ils n'ont pas été conçus pour avoir des émotions, mais pour incarner des dogmes.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, lire ce livre comme un guide de développement personnel sur le deuil, c'est complètement rater l'architecture du récit.
Totalement. Une fois que la femme a posé son ultimatum et que les amis ont pris place, le décor philosophique est planté. Les scènes célestes du début sont terminées. La vraie lutte terrestre commence.
C'est fascinant. Donc, pour récapituler pour ceux qui nous écoutent, on ressort de cette analyse avec une vision complètement renouvelée.
Une vraie révolution du regard, oui.
La femme et les amis de Job, c'est pas juste des proches maladroits. Ce sont les agents involontaires d'un test cosmique. Ils incarnent l'échec cataclysmique d'une sagesse purement transactionnelle.
Et ça nous rappelle au passage l'importance de garder un esprit critique face aux systèmes de pensée qui promettent de tout expliquer. La soif de certitude cache souvent une grande fragilité.
C'est très vrai. Et ça me donne envie de laisser notre audience sur une petite réflexion inédite pour prolonger tout ça.
Je t'écoute.
Si ses amis représentaient vraiment le sommet de la sagesse antique, l'expérience, la tradition, le système, à quoi ressembleraient les trois amis d'un Job moderne aujourd'hui?
Ah, c'est une excellente question ça.
Imagine, quelqu'un voit sa vie s'effondrer. Quelles grandes idéologies viendraient s'asseoir à côté de lui? Peut-être le déterminisme technologique qui chercherait la faille dans l'algorithme de sa vie?
Ou la culture du développement personnel?
Exactement. La fameuse positivité toxique qui lui dirait que son état d'esprit n'était pas assez bon, recréant un nouveau principe de rétribution.
Et la femme de Job serait le cynisme pur et dur des réseaux sociaux.
Voilà. Comme quoi, la capacité de notre sagesse à produire des explications arrogantes face à la souffrance, elle n'a pas pris une ride. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette analyse.
Merci à toi. C'était passionnant.
Et pour ceux qui nous écoutent, gardez l'esprit ouvert et continuez de creuser sous la surface. À la prochaine pour une nouvelle plongée en profondeur.